France Culture et les 16h. Tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Vous pouvez nous adresser vos réactions et commentaires au sujet de notre débat d'aujourd'hui sur le site de Science Publique. 100 ans après l'or, prédiction qu'apporte la détection des ondes gravitationnelles. Le 11 février 2016, les chercheurs de l'observatoire américain LIGO ont annoncé, je cite, « Nous avons détecté des ondes gravitationnelles, nous l'avons fait ». Fin de citation. En réalité, cette détection date du 14 septembre 2015. Ce jour-là, à 9h50 minutes et 45 secondes, la Terre a été déformée par le passage d'une onde émise 1,3 milliard d'années-lumière plus tôt. Et cette onde a été émise par la fusion de deux trous noirs dans l'espace. Si la description de cette découverte tient en une phrase, il aura fallu toute l'imagination d'Albert Einstein, 100 ans de patience et un exploit technologique sans précédent pour pouvoir la prononcer. Car tout est bonnement extraordinaire dans cette affaire. Nous allons nous attacher au cours de cette émission à comprendre pourquoi il s'agit bien d'un exploit scientifique du même ordre que celui de la mise en évidence de l'existence du boson de Higgs en 2012. Nous verrons également quelles sont les conséquences de cette découverte expérimentale pour l'avenir de l'astronomie, en quoi la détection des ondes gravitationnelles peut-elle nous apporter une nouvelle vision de l'univers, de ce qui s'y produit et peut-être de ce qui s'est passé à son origine lors du fameux Big Bang. Programme chargé donc pour cette émission du Club Science Publique qui reçoit aujourd'hui en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Pierre Binetruy, qui est professeur à Paris Diderot, responsable français de la mission LISA de recherche d'ondes gravitationnelles, Nathalie Deruel, directrice de recherche au CNRS et membre du laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'université Paris Diderot, et nous sommes également avec deux membres du Club Science Publique, Pierre-Henri Couillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à l'AgroParisTech et à Sciences Po, et Jacques Trainer, physicien, ancien professeur à l'université Pierre et Marie Curie. J'ai le plaisir de vous signaler qu'il est de nouveau possible de nous adresser vos réactions et commentaires en bas de la page internet de Science Publique. Pierre Binetruy, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment avez-vous réagi ce fameux 11 février lorsque la nouvelle, qui était attendue et un peu connue depuis quelque temps, avec quelques fuites, est sortie, nous avons détecté des ondes gravitationnelles, comme l'affirmant annoncé le directeur exécutif de LIGO, David Reitze.
Alors, j'étais pas complètement surpris, comme
j'imagine.
Voilà, donc je savais presque tout ce qu'ils allaient annoncer parce que voilà, dans la communauté, un certain nombre de choses avaient commencé à filtrer. Et puis, dans l'expérience où je suis, on est très très proche de cette expérience-là. Quand même, regardez la. Donc, j'ai regardé en direct de ma chambre d'hôtel parce que j'étais loin la conférence de presse américaine. Il y avait quand même une certaine émotion de se dire, ben voilà, quand même, c'est à la fois 100 ans qui se clôt et 100 nouvelles années qui s'ouvrent.
Donc,
c'était, c'était un show un petit peu à l'américaine, on va dire, mais je crois que ça en valait vraiment le coup, une découverte pareille.
Alors, vous étiez dans le tempo, puisque l'année dernière, vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « À la recherche des ondes gravitationnelles », et cette année, on les a trouvées.
Oui, alors je dois remercier l'éditeur, parce que nous avons eu une longue discussion. Moi, j'avais dans l'idée d'écrire un livre sur l'univers gravitationnel, montrer que la gravité est un petit peu ce qui connecte tout, un petit peu le fil rouge de toutes ces questions qu'on se pose. Et donc, je voulais l'appeler l'univers gravitationnel. C'est l'éditeur qui m'a dit, peut-être qu'ils en savaient plus que moi sur la future découverte des ondes gravitationnelles. Moi, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Qui m'a dit, non, il faut absolument, ça va s'appeler à la découverte des ondes gravitationnelles. Et je me rappelle qu'à l'époque, je leur ai dit, mais écoutez, tout le monde s'en fiche des ondes gravitationnelles. Je vais montrer d'abord, parlons d'abord gravitation avant de parler ondes gravitationnelles.
Bon, on va voir qu'en fait, tout le monde ne se fout pas des ondes gravitationnelles
non.
Et que c'est assez important. Donc, l'éditeur dont vous parlez, c'est Duno, pour le citer. Nathalie Deruel, bonjour.
Bonjour.
Donc, même question pour vous. Quelle a été votre réaction? Vous étiez peut-être moins dans le secret du fait que vous n'êtes pas aussi peut-être partie prenante dans l'expérimentation.
Oui, je suis théoricienne.
Voilà.
D'ailleurs, Pierre aussi est théoricien. Ouais. Mais bon, ça avait un petit peu fuité les jours précédents. Mais tout de même, c'est un grand moment de science. Évidemment, c'était un côté un peu chaud à l'américaine, mais c'était un moment crucial dans l'histoire d'une théorie et peut-être même dans l'histoire de la science. Des découvertes comme celle-ci, il y en a quelques-unes par siècle, guère plus. C'est vraiment un moment clé de l'histoire de la physique, je pense.
Du même ordre que le boson de Higgs.
Tout à fait du même ordre que le boson de Higgs. Ou on peut faire peut-être une autre comparaison. Il y a 400 ans à peu près, Galilée a eu l'idée de tourner sa lunette vers le ciel. Il a découvert un monde nouveau. Et c'est une découverte un petit peu du même style, dans le sens où elle ouvre aussi une nouvelle ère pour notre compréhension de l'univers.
Alors nous allons approfondir justement cette question fondamentale. Pierre-Henri Gouillon.
Oui, ça m'intéresse ce que vous dites parce que, vu de l'extérieur, on a un peu l'impression que, aussi bien le boson de Higgs d'ailleurs que les ondes gravitationnelles, ça fait belle lurette que ça avait été prévu théoriquement, et que tout compte fait, le fait de les trouver, ben voilà, on est content, on a trouvé un truc qui était déjà prévu, mais enfin, c'est pas une découverte au sens propre du terme, puisqu'on savait déjà que ça devait exister. Alors, où est la découverte vraiment, et qu'est-ce que ça a changé du coup? Parce que, puisqu'on savait déjà que ça devait exister, qu'est-ce que vous savez de plus maintenant?
Nathalie Dorel.
Vous posez une question sur le sens même, en un sens, de la physique. J'entends par là la chose suivante. C'est que, bien sûr, ces ondes gravitationnelles avaient été prédites dès 1916-1918 par Einstein, mais il y a une différence énorme entre sortir quelque chose d'équation, qui étaient les équations de la relativité générale, un nouveau concept, celui d'onde gravitationnelle, de l'étudier pendant 100 ans, et de façon de plus en plus approfondie, de se dire petit à petit que tout de même, ce concept qui n'existe que sur le papier doit avoir une réalité physique, doit avoir une signature dans le monde des phénomènes. Et le moment où on trouve cette signature dans le monde des phénomènes, c'est ça le grand moment de science.
C'est pas le moment où on l'avait prédit.
Le moment où on l'a prédit est très important. Mais on prédit des choses tous les jours. Et il y en a un nombre très grand d'idées qui disparaissent et qui ne s'ancrent pas dans les phénomènes.
Jacques Trenner.
Oui, ma question était dans le même sens, et ma remarque était un peu dans le même sens, c'est-à-dire on essaie simplement de comprendre un petit peu mieux où sont faites les percées, mais il y avait des confirmations indirectes déjà avec le ralentissement du pulsar binaire, des choses comme ça, donc c'est quelque chose qui est quand même intrinsèquement vissé dans la théorie de la relativité générale. Vous en savez beaucoup plus que moi sur la question. Et si elle n'était pas là, ça serait une catastrophe pour la théorie telle qu'elle est. Donc, est-ce que le tour de force, il n'est pas plutôt dans le fait d'atteindre une précision de l'ordre de, je sais pas, 10-21, qui est totalement hors de toute imagination? Et en fait, est-ce que vous pouvez dire un petit peu quelle est la nature de ce tour de force? Ce que je voulais dire, c'est que quand on a une théorie extrêmement bien fondée, par pas seulement sur le papier, mais par déjà un certain nombre d'observations, ce qu'elle prévoit doit être là, en quelque sorte. C'est-à-dire, sinon, ça serait peut-être, ça aurait pu ne pas être confirmé, mais c'est peu probable. Tout le monde pensait, enfin, tous les gens qui travaillent là-dessus pensaient qu'elles étaient là, et que c'était un challenge d'arriver à les observer. Donc, quelle a été la percée sur le plan technologique, qui a permis de le faire?
Alors Jacques, on va y venir, mais je voudrais d'abord qu'on définisse ces ondes gravitationnelles,
oui,
parce que l'exploit de la mesure est évident. Même Einstein pensait que personne ne pourrait jamais les mesurer vu leur force. Peut-être qu'il faut, pour démarrer cette émission, définir ce que sont les ondes gravitationnelles, Pierre Bunetrio.
Alors, je voudrais juste dire, mais ouais, on va voir que, mais répondre en partie, non pas sur le tour de force technologique qui est évident. Pour moi, c'est pas ça qui en fait une découverte historique, et on parlait d'il y a 400 ans, etc. La lunette, c'était pas non plus la lunette de Galilée, c'était absolument pas quelque chose de.
Une découverte.
Une découverte. Il n'empêche que ça a ouvert l'astrophysique. D'un seul coup, on s'est mis à regarder les lunes, etc. Je pense que là, ce qui en fait quelque chose d'absolument fondamental dans notre domaine, c'est que, rappelez-vous quand même que l'univers, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'univers dans ses plus grandes dimensions, il est vraiment régi par la gravitation. Jusqu'au 14 septembre, on observait principalement l'univers par la lumière. Moi, je dis toujours, c'est un accident, c'est parce qu'on a des détecteurs dans la tête,
qui sont les yeux,
et on a commencé par copier les yeux et essayer de... D'un seul coup, on se met à observer l'univers avec la gravité faite onde, et donc c'est complètement nouveau, et c'est ça qui ouvre un champ. Je pense que c'est ça qui est différent quand on compare avec le Higgs. Le Higgs a fermé une recherche, les ondes gravitationnelles ont... Là, maintenant, c'est découvert, etc. On n'avait pas beaucoup de doutes là-dessus. Mais maintenant, on est en train d'ouvrir un champ d'investigation inimaginable, avec peut-être de grandes surprises. S'il y a des sources qui n'émettent qu'en ondes gravitationnelles, on va les découvrir. Peut-être qu'on n'a pas du tout conscience.
Pierre-Henri Gouillon, vous voulez...
Non, effectivement, je comprends. Donc, c'est pas comparable à la découverte par Galilée des satellites de Jupiter, par exemple, mais comparable au fait de développer la lunette. Quoi.
C'est ça. Ouais.
D'accord, ok, je comprends mieux.
Alors, cet exploit, comment définir son objet, une onde gravitationnelle? Pour l'instant, c'est tout nouveau en termes de réalité physique, puisque ça date de l'année dernière, hein, la date que vous avez citée, le mois en septembre 2015. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour qu'on parle d'onde gravitationnelle?
Alors on peut revenir à Einstein justement. Alors en 1915, donc on fêtait le centenaire en novembre dernier, on a la théorie de la relativité générale qui nous apprend que la masse courbe l'espace-temps. Et donc en fait très vite il va apparaître, alors il apparaît aussi dans les équations, mais il va apparaître la chose suivante, c'est que si de la masse se déplace, elle va créer des déplacements de courbure. Et ces déplacements de courbure, moi j'aime bien l'image très simple et qu'on a tous un petit peu dans la tête, même les physiciens, des rides à la surface de l'eau. Si vous lancez une pierre dans l'eau, eh bien vous allez créer des vagues. Alors imaginez que c'est ça nos ondes de courbure, et ça va se déplacer dans cet espace-temps. Donc c'est ça, la masse courbe l'espace-temps. Le mouvement de la masse engendre des déformations de courbure qui se propagent à ce moment-là dans tout l'espace-temps, et ce sont ça les ondes gravitationnelles. Ce qui est remarquable, c'est que du coup, ça traite l'espace-temps comme un milieu élastique. Et c'est ça qui est à la fois simple à comprendre et extrêmement difficile à comprendre. Et moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, d'un seul coup, de se dire avec cette découverte, finalement, ce que nos équations nous disent, cet espace-temps, il est déjà court, mais en plus de ça, il est élastique. Et on vient de voir une preuve de cette élasticité. C'est ça qui, moi, me fascine le plus.
C'est le vieux rêve de l'éther ou...
Non. Nathalie Deruel, justement, l'espace-temps, c'est l'occasion rêvée de nous pencher quand même une seconde sur ce que représente cet espace-temps. On en parle comme de choses naturelles dans le langage de Pierre Binet-Ruy, mais ça n'est pas du tout.
Si, c'est naturel, puisque ça sort des équations et que ça a été vérifié.
Pour nous, mais... en termes de sensations...
Le monde est écrit en langage mathématique.
Exactement, le monde est écrit en langage mathématique. Donc les images que Pierre a données pour décrire les ondes gravitationnelles sont très parlantes. Donc on voit très bien des rides qui se propagent sur l'eau. Et du coup, on a tendance à imaginer l'espace comme un milieu. C'est pour ça que vous avez mentionné le mot d'éther, qui était le milieu...
Le prédécesseur un peu de...
Qui emplissait l'espace. Alors, en fait, cette image est très parlante, mais il faut faire peut-être un peu attention, parce que il n'y a pas de matière dans l'espace. Il est courbé. Donc, c'est très difficile de savoir, d'imaginer un espace à trois dimensions courbé. Une surface courbée, c'est facile, parce qu'on l'imagine toujours plongé dans un espace à trois dimensions. Mais un espace à trois dimensions, comme cette pièce, courbé, c'est difficile à imaginer. Peut-être une façon de l'imaginer, c'est de se dire que s'il n'y a pas de gravitation, si c'était l'espace dit de Newton, à ce moment-là, quand on se promène dans cet espace, on va en ligne droite, à vitesse constante, s'il n'y a pas d'autre force. Si cette pièce était courbée, elle est courbée par la gravitation, à ce moment-là, notre mouvement libre, naturel, n'est plus d'aller en ligne droite à vitesse constante, mais à se promener dans cet espace courbe de la façon la plus libre possible, mais plus en ligne droite. Et c'est la gravitation elle-même qui nous fait errer dans cet espace. Et les ondes, à ce moment-là, ce sont des espèces de variations de cette courbure, et dans laquelle, quand je suis plongée dans cet espace-là, moi-même, je vais avoir des petits mouvements à droite et à gauche. Alors, Est-ce que Pierre est d'accord avec ce que je dis, ou il faut corriger?
Pierre Dimitri.
Oui, je pense que il faut juste peut-être préciser qu'en fait, ce qui varie, ce sont les distances entre deux objets. Il n'y a pas de mouvement associé aux ondes gravitationnelles, mais c'est vraiment des distances entre deux objets. On va voir que la mesure, c'est justement mesurer des distances.
Alors, pour nous rapprocher de la mesure, il faut quand même préciser que la Terre, en ce fameux mois de septembre 2015, s'est donc déformée sous l'action des ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est une manifestation très physique de quelque chose que jusqu'à présent on a défini d'une façon qui nous est peut-être difficile à percevoir, mais là, on a perçu une déformation de la Terre. Est-ce que c'est bien cela, Nathalie Derwel?
Moi, j'imagine, mais sous le regard attentif de Birmi Détruit, j'imagine quelque chose de légèrement différent. Je suis là, dans cette pièce, dans cet espace dans lequel une onde gravitationnelle passe. Vous, vous êtes un peu plus loin, là, en face de moi. La même onde gravitationnelle passe dans l'espace. Donc, nous bougeons tous les deux, un peu. Et surtout, nous avons de la lumière, un faisceau laser, qui va de vous à moi, qui fait des allers-retours. Et à ce moment-là, le temps que met la lumière pour faire les allers-retours va être un peu modifié par ce passage de cette onde. Et je crois qu'à la base, c'est un peu ça ce que l'on détecte, n'est-ce pas ?
Pierre Binetruy.
Oui, tout à fait.
Elles sont quand même une déformation.
Alors, c'est une déformation, mais... j'aime pas trop. Vous avez compris, j'aime pas trop le
Oui, je vois bien que vous l'aimez pas trop. Mais alors, par quoi alors remplacer?
Parce que, encore une fois, ce sont les distances qui varient. Ça n'est pas... je pense qu'il faut pas voir une onde gravitationnelle comme une force qui se déplace. C'est vraiment quelque chose qui change la courbure de l'espace-temps. Et donc, alors, je vais reprendre ma comparaison un petit peu. Si vous avez donc des vagues, etc., les distances entre deux objets peuvent varier simplement parce que d'un seul coup, la surface se courbe, et c'est un petit peu ça. Donc c'est pas la Terre qui se déforme proprement dite, c'est les distances. Alors vous allez me dire, ça ressemble franchement à une déformation.
C'est très subtil.
Oui, c'est là où c'est un petit peu
en
subtil.
Fait, on pourrait dire qu'elle se déforme pas, mais que la distance change parce
exactement.
Que justement
le
fondement même de la distance n'est plus le même à cause de l'onde.
Voilà. Jacques Trainer.
Oui, il est très difficile de visualiser un changement de courbure, mais la courbure elle-même, finalement, ça ne devrait pas être si compliqué que ça, parce que, en fait, la force de gravitation disparaît, elle est remplacée par la courbure de l'espace. Par exemple, si la Lune tourne autour de la Terre, c'est pas parce qu'elle est attirée par la Terre, mais c'est parce que la Terre déforme l'espace-temps autour d'elle, et que donc, le mouvement libre de la Lune dans un espace déformé, c'est un cercle, une ellipse.
Voilà, c'est la fameuse image du drap déformé par une...
Oui, et donc ça, c'est pas un petit effet, c'est un effet énorme, puisque c'est le mouvement de la Lune autour de la Terre.
Oui.
Vous êtes d'accord avec ça?
Alors,
la force disparaît au profit de la courbure de l'espace.
Oui, ça oui.
Oui ou non?
Je ne suis pas complètement d'accord. et là, on revient à la notion d'espace-temps.
Oui,
c'est important.
Il faut varier ça dans le temps.
Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que c'est dans l'espace. Parce que selon la théorie de Newton, l'espace il est plat et il n'y a pas de courbure de l'espace. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop l'expérience du drap. Parce que ça peut prêter à confusion. Donc au sens strict, c'est la courbure de l'espace-temps dont il faut parler, et dans le cas de Newton, c'est la partie temporelle en fait qui joue.
Ce qui gêne, c'est de définir l'espace-temps, parce que là, quand on utilise justement ce drap, on fait abstraction du temps, évidemment.
Voilà,
dans l'espace-temps, c'est quand même ça joue un rôle important, semble-t-il.
Si l'espace est courbé, ça c'est vraiment un effet de relativité générale.
Nathalie Derwel.
L'idée que la force disparaît au profit de la courbure de l'espace-temps, c'est pas une vision, c'est pas une image correcte, enfin
c'est une image correcte, mais dans le cas de Newton. C'est même une image correcte dans le cas de Newton.
Parce que dans le cas de Newton, pour qu'il y ait une trajectoire circulaire, il faut une force. On a introduit le concept.
Non, d'accord.
Le concept, on ne sait pas d'où il vient.
C'est ce qu'on appelle la limite newtonienne de la relativité générale.
Oui.
Il y a peut-être deux effets qui se combinent. Quand on parle du mouvement de la Lune autour de la Terre, votre image est, je pense, tout à fait juste. La Lune a un mouvement naturel autour du Soleil, et ce qui fait que...
La Terre autour du Soleil.
Et ce mouvement que l'on voit dans l'espace, c'est l'ellipse de Kepler, ou un cercle. Si on rajoute la dimension temporelle, en fait, on fait une période. À chaque tour, il faut rajouter le 28 jours. Donc, dans l'espace-temps, cette ellipse, ce cercle, devient une spirale projetée sur l'espace. Devient. Et cette spirale est tellement étirée, si vous voulez, que c'est presque une droite vue dans l'espace-temps. C'est projeté sur l'espace que ça cet effet énorme d'être un cercle. Mais c'est un cercle qui est très, très étiré dans le temps. Donc, ce n'est pas un effet si énorme que ça dans l'espace-temps. Mais dans l'espace, oui. En revanche, les ondes gravitationnelles, ça, c'est quand il y a des phénomènes plus violents, si vous voulez, où, par exemple, la Lune, brutalement ou progressivement, se rapproche de la Terre. Et donc, ce n'est plus tout à fait périodique. L'ellipse elle-même... Le cercle se rétrécit petit à petit, et ce rétrécissement du cercle va créer, en plus du gros effet dont vous parlez, ces petites vibrations de l'espace en plus.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
100 ans après leur prédiction, qu'apporte la détection des ondes gravitationnelles? C'est la question dont nous débattons aujourd'hui dans le Club Science Publique avec nos invités. Pierre Binetruy, qui est responsable de la mission LISA, de recherche d'ondes gravitationnelles. Nathalie Deruel, membre de l'Académie du laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris Diderot. Et nous sommes avec deux membres du Club Science Publique. Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à l'AgroParisTech et à Sciences Po. Et Jacques Trainer, physicien, ancien professeur à l'Université Pierre et Marie Curie. Alors voilà, on a attaqué très fort avec les ondes gravitationnelles et l'espace-temps dans le même quart d'heure. Donc on va atterrir un tout petit peu avec justement ce qui s'est passé aux États-Unis en septembre dernier, lorsqu'une onde gravitationnelle, donc que nous venons de définir, a frappé la Terre, et donc on a enregistré cet instrument dont vous allez nous parler, a enregistré ce passage sous la forme d'un petit signal qui le témoin de quelque chose, de semble-t-il, d'infinitésimal. Alors comment qualifier ce qui s'est passé dans le laboratoire, l'observatoire LIGO, donc qui est réparti en deux sites aux États-Unis, distant de 3 800 kilomètres, et qui chacun d'ailleurs a enregistré le même signal à quelques nanosecondes d'écart. Que s'est-il passé et comment a-t-on pu déterminer que voilà, ce que l'on venait d'observer était bien, pour la première fois dans l'histoire de la physique, la trace d'une onde gravitationnelle? Pierre Binetruy.
Alors, on a mesuré des variations de distance. Les variations de distance qui sont mesurées sont extraordinairement petites. Là, on pourrait aligner les fractions de mètres, etc.
On parle du millième de la taille d'un proton.
Oui, alors moi ça me gêne toujours un peu parce que à ce moment-là, tout le monde, tous ceux qui sont censés, je suis sûr que tous auditeurs disent mais c'est pas possible parce que le proton c'est déjà une particule élémentaire. Comment est-ce qu'on peut mesurer
une fraction?
Voilà. Alors je pense qu'il faut déjà dire qu'en fait c'est tout un objet qui se déplace de cette fraction-là. Donc on peut pas mesurer la position d'un atome à une taille bien inférieure, une distance bien inférieure.
On parle aussi de la distance Terre-Soleil.
C'est un objet massif, donc dans ce cas un miroir, qui s'est déplacé. Et donc ce sont des milliards d'atomes qui sont déplacés du même mouvement. Donc c'est pour ça qu'on peut mesurer ce genre de choses. Parce que sinon, effectivement, la première action, c'est de se dire mais c'est complètement impossible. Donc voilà. Alors justement, ces ondes gravitationnelles donnent des déplacements ou des variations de distance extraordinairement faibles. Et il faut arriver à mesurer ça. Donc c'est pas qu'un double décimètre qu'on va faire ça. Ce qu'on sait faire de mieux, c'est d'utiliser la lumière comme étalon. On sait ça depuis en fait la fin du 19e siècle, et on utilise un objet qui s'appelle un interféromètre, qui est un objet qui en fait où deux rayons lumineux vont qui sont très cohérents, enfin qui ont exactement les mêmes propriétés, vont partir du même laser, vont faire deux chemins, parcourir deux chemins orthogonaux, revenir parce qu'ils sont reflétés par des miroirs et se recombiner. Et on utilise un phénomène qui s'appelle le phénomène d'interférence entre ces deux rayons lumineux. Et ces phénomènes d'interférence qui donnent des franges lumineuses et des franges obscures permet de mesurer très précisément la distance parcourue par ces rayons lumineux. Donc ça, c'est quelque chose que l'Américain Michelson a développé à la fin du 19e siècle. Ça a déjà eu un rôle très important dans l'histoire de la relativité, puisque c'est à la base de l'idée que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions. Et c'est quelque part ce qu'on sait encore faire de mieux. Donc d'une certaine façon, on utilise là simplement la lumière, qui est une vibration, donc la longueur d'onde de la lumière, pour mesurer des déplacements extrêmement faibles. Évidemment, on a fait énormément de progrès entre la fin du 19e et puis l'expérience LIGO.
Donc LIGO,
mais le principe est le même.
Il faut s'imaginer, donc ce sont deux bras perpendiculaires, comme vous l'avez dit, et qui font quand même chacun 4 km de long. Et donc la lumière parcourt ces 4 km dans les deux sens, revient et ensuite interfère avec l'autre rayon qui arrive de l'autre bras. Et c'est l'analyse de cette interférence qui permet de détecter quelque chose de nouveau, qui est cette action des ondes gravitationnelles.
Oui, parce que quand une onde gravitationnelle passe à travers cet instrument, elle va le déformer. En gros, l'un des bras va devenir un tout petit peu plus petit, l'autre bras va devenir un peu plus grand.
Tout ça sans déformer la Terre, donc, si j'ai bien noté.
Non, pas non plus. C'est la distance devient plus grande alors que les bras sont pas déformés.
Donc,
c'est un peu ça, oui.
Non. Je suis d'accord, je me rends. La Terre aussi, on peut considérer, j'utilise le mot de la même façon. Voilà. Donc effectivement, en tout cas, ces distances que parcourent les rayons lumineux vont varier. Quand l'une diminue, l'autre augmente. Puis comme c'est une onde, c'est un phénomène périodique. Après, c'est l'inverse. Et c'est ça qui va permettre ce qu'on va appeler la figure d'interférence. Donc la superposition des deux ondes va varier un tout petit peu. Et c'est ça qui permet de mesurer ces variations de distance.
Donc un signal, si j'ai bien bonne mémoire, de 20 millisecondes à l'arrivée.
Alors le signal est extrêmement court, donc faut pas le louper. Effectivement, c'est ça.
Jacques Trainer.
Oui, et je suppose que il faut être sûr que c'est pas un métro qui passe dans le coin. Donc comment on identifie tous les signaux spurieux qui pourraient donner des effets
déjà, que, comment est-on sûr? Il n'y a pas de métro.
Déjà. Oui, d'accord, c'est une façon de parler.
Un camion, je crois qu'un camion passe, dans le tunnel où elle, il suffit de bruit même. Oui. Ça suffit, à un bruit dans le tunnel qui abrite le faisceau lumineux suffit à perturber complètement.
Comment on s'assure de ça? Alors, c'est ça le décalage entre le moment où ils ont détecté et puis le moment où ils ont annoncé publiquement,
ils ont travaillé pendant de nombreuses années et donc le détecteur LIGO ou LIGO était on est dans la deuxième génération de détection parce que le premier détecteur n'était pas assez sensible. Donc en fait, il y a un travail énorme et c'est ça le tour de force technologique pour diminuer tous les bruits ou les contrôler.
Et là on peut peut-être Nathalie mentionner le rôle de la version européenne de cet ensemble, Virgo. Parce que comme vous dites, le bruit, c'est-à-dire toutes les vibrations qui pourraient perturber ce signal, était pendant 40 ans un problème majeur pour développer ces technologies. Et donc un des défis technologiques énormes, du moins c'est ce que l'on m'a dit, moi je suis théoricienne, c'était de faire en sorte que ces miroirs qui vont être perturbés par le passage de l'onde, ne soient perturbés que par ça. Il faut donc qu'ils soient suspendus à des fils, à des espèces de tours gigantesques qui amortissent tous les autres bruits.
Et les tours souterrains?
Non, je crois que les tours sont au-dessus des tunnels. D'accord. Et là, Pierre Binitrui connaît les aspects technologiques bien mieux que moi. Mais le rôle des équipes européennes de Virgo a été très important dans ce domaine, même pour la construction des détecteurs américains. C'est une collaboration internationale.
Donc Virgo est un appareil du même type que ceux qu'ont utilisé les Américains, un appareil qui est installé à Pise.
Près de Pise, dont les bras font 3 km. Et qui malheureusement n'était pas en train d'être en opération quand LIGO a détecté les signaux.
Donc il faut préciser que les Américains ont attendu plus de 10 ans, en fait, pour obtenir cette détection, puisque leur appareil est en service depuis 2002, et que donc ça n'est arrivé qu'en 2015 qu'une onde gravitationnelle a frappé la Terre et a été détectée. Ce qui veut dire quand même que le phénomène est extrêmement, d'abord, rare, semble-t-il, dans l'univers. Alors là, je vois que vous dites non, donc vous allez nous expliquer pourquoi.
C'est la détection, bien.
Et probablement aussi, la faiblesse du signal laisse pantois. C'est un signal qui est parti, donc il y a à peu près, si j'ai bonne, 13 000 milliards de milliards d'années.
1,3
milliard d'années-lumière. Là, je parle en années.
Non, 1,3 milliard d'années.
Alors, 13 000 milliards de milliards de kilomètres. Et donc, et qui arrive sur Terre. Donc, c'est tout ça, à la fois en termes de gigantisme pour ce qui est de la distance et en termes de faiblesse du signal que l'on récupère, tout cela laisse totalement pantois. Comment est-ce possible? Et est-ce qu'on est sûr? Je pense que c'est une question que tout le monde peut se poser. Que c'est bien une onde gravitationnelle que l'on a détectée. Pierre Binetruy.
Alors, le signal est tout petit parce qu'en fait, la force gravitationnelle est très faible. C'est pas notre première impression parce que nous avons les pieds sur un objet très très massif, donc on est sensible à cette force gravitationnelle. Mais en fait, c'est la plus faible de toutes les forces fondamentales et c'est d'une certaine façon là, ce qui fait que effectivement, ces effets sont si minuscules. C'est la rançon, enfin, ou l'inverse, la gloire de la rançon, c'est que si on les détecte, comme on disait, elles ont été très peu perturbées par tout ce qu'elles ont rencontré jusqu'ici. Et donc, encodées dans ces ondes gravitationnelles, il y a toute l'information du départ. Donc ça, on va y revenir, mais c'est extrêmement important. Donc, effectivement, l'effet est très petit. Pourquoi ils ont attendu si longtemps? En fait, c'est simplement parce qu'il y a une question de sensibilité du détecteur. Alors, c'est justement lié à la question que vous posez des ce qu'on appelle nous les bruits, c'est-à-dire toutes les sources de bruits parasites. Il a fallu les faire descendre suffisamment pour qu'on arrive à voir ces signaux tout petits. Et en fait, c'est ça qu'ils ont fait. Et comme le disait Nathalie, les Américains en particulier ont utilisé des suspensions suspendues leur miroir en s'inspirant de l'exemple de Virgo. Et donc, c'est la version améliorée avec une sensibilité bien meilleure qui démarrait début septembre chez LIGO et pof, ils ont trouvé un événement.
Donc ils l'ont trouvé tout de suite après avoir ajusté cette précision, cette sensibilité.
On va voir, il y a probablement d'autres événements qui ont déjà été détectés. Donc il est probable qu'ils ont atteint la sensibilité maintenant pour voir toutes sortes d'événements.
Jacques Trainer.
Oui, alors justement, sur la nature de l'événement lui-même, il semble que ce soit la coalescence de deux trous noirs dont on connaît plus ou moins les masses. Et ça, je ne comprends pas du tout comment on peut revenir à ces masses.
1,3 milliard d'années, donc deux trous noirs. Et c'est ça qui est fantastique aussi, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont sous nos yeux, puisqu'on a à la fois leur taille, on a le moment où ils ont fusionné, on a leur distance, on a plein d'informations. Comment est-il possible, à partir d'un signal aussi ténu, de remonter à des précisions aussi grandes sur l'origine de ce phénomène, Nathalie Derouel?
Oui, là, on a parlé des progrès technologiques qui avaient été nécessaires pour arriver à la sensibilité requise. Mais imaginez que ces sensibilités aient été atteintes il y a 15 ans, disons. Il y a 15 ans, les théoriciens n'étaient pas prêts. C'est-à-dire que si LIGO avait opéré avec ses sensibilités il y a 15 ans, le signal n'aurait pas été vu. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il reste des bruits et ce signal est un peu masqué dans le bruit. Donc, il faut aller chercher le signal dans le bruit. Pour chercher quelque chose dans le bruit, il faut savoir ce que l'on cherche. Donc, il faut avoir une idée très précise des possibilités de signaux.
Donc une signature du signal que l'on cherche à l'avance.
Et là, il y a donc un effort technologique sur une quarantaine d'années, mais il y a un effort parallèle théorique qui, lui, est encore plus ancien. Il remonte à Einstein lui-même, 1918. Et il a fallu 100 ans, mais vraiment d'efforts constants, pour que les théoriciens, étape par étape, arrive à faire sortir des équations d'Einstein la structure de ces ondes gravitationnelles, le signal précis. Pour ça, il faut avoir une idée de quelle peut être la source de ce signal. Là, il a fallu aussi 100 ans de développement de la relativité générale pour concevoir des objets qui pourraient produire ces ondes-là. Et il a fallu comprendre le concept de trou noir. Il a fallu que les astrophysiciens voient dans le ciel des objets qui avaient des chances d'être des trous noirs. Ensuite, il a fallu que les astrophysiciens imaginent des scénarios où deux trous noirs pourraient être en orbite l'un autour de l'autre, comme notre Lune autour de la Terre tout à l'heure, tourner l'un autour de l'autre, et étudier le mouvement de ces trous noirs dans le cadre de la théorie d'Einstein dite en champ fort, c'est-à-dire dans un domaine très très loin de ce que la physique de Newton prédit. Donc c'est un travail énorme. Et il y a 15 ans, les théoriciens n'étaient pas prêts. Ils n'en savaient pas suffisamment encore sur les équations d'Einstein. Donc c'est un concours de circonstances très heureux, en un sens, que la technologie, les trésors d'imagination des expérimentateurs et leurs talents se soient arrivés à maturité en même temps que les efforts des théoriciens. Donc c'est un des côtés merveilleux de cette découverte.
Bon, mais vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont deux trous noirs fabriquent une onde, alors ?
Pierre Binetruy.
Parce que vous dites qu'ils tournent autour de l'autre. Ça c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est juste...
C'est un peu ça, apparemment. Mais...
Est-ce qu'ils fusionnent ? Est-ce qu'ils restent l'un autour de l'autre ?
Oui, on entend plein de choses. Pierre Binetruy.
Alors, effectivement, il y a beaucoup de systèmes binaires dans l'univers. Beaucoup d'étoiles sont dans des systèmes binaires ou même ternaires. Le type de trous noirs dont on parle sont en fait des étoiles en fin de vie, c'est-à-dire des étoiles relativement massives en fin de vie. Donc il y a eu un système d'étoiles, deux étoiles qui tournaient autour de l'autre et qui ont épuisé leur combustible nucléaire et qui sont écroulées en trous noirs. Et donc on a deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre.
Et on peut avoir une idée de la taille, par exemple, de ces objets ?
On a une idée très précise, hein,
pour ce qui est de... je vais y venir. Donc, on a deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, et c'est de la masse en mouvement. Donc, ça émet des ondes gravitationnelles. Donc, ça perd de l'énergie. Et parce que ça perd de l'énergie, les deux trous noirs se rapprochent et tournent plus vite. Donc en fait c'est un processus qui met de nombreuses années, ce trou noir, enfin des millions, des milliards d'années, ça fait très longtemps qu'ils tournent l'un autour de l'autre. Au fur et à mesure, ils ont perdu de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles, et donc ils se sont rapprochés, ils ont tourné de plus en plus vite. Et là, en fait, le signal, on le voit, pourquoi ? Parce qu'ils étaient tellement près l'un de l'autre, que la force gravitationnelle devenait vraiment forte, et donc l'attraction gravitationnelle était très forte. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est le signal, mais avec 1,3 milliard d'années de décalage.
D'années-lumière.
Et le signal...
Non, d'années.
1,3 milliard d'années-lumière.
Non,
je parle de temps. Le temps. 1,3 milliard d'années, d'accord.
C'est ce signal-là décalé, et c'est simplement les 20 dernières millisecondes qu'on est en train d'observer, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Un trou noir est en fait un objet très bizarre. On a mis beaucoup de temps à se convaincre qu'il y avait, c'était des objets astrophysiques. Donc, en fait, on comprend pas bien ce qu'il y a au centre du trou noir. On appelle ça une singularité. Mais en fait, c'est caractérisé par ce qu'on appelle son horizon. C'est-à-dire, c'est la surface de non-retour. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces trous noirs, on a observé les dernières rotations. Et à ce moment-là, les deux horizons des trous noirs se sont touchés. Donc, ça n'a plus fait qu'un seul trou noir. Et à ce moment-là, et donc, c'est cette fusion-là qu'on observe. En fait, donc, c'est les 20 dernières millisecondes d'un événement qui se produit. Alors, vous allez vous dire, ils ont de la chance parce que si ça faisait des millions d'années ou des milliards d'années, pourquoi est-ce qu'on a réussi à récupérer juste les 20 dernières millisecondes? Bah, c'est simplement que, voilà, il y a cette source-là, ça s'est produit, juste pour tomber dans le détecteur. Mais il y a plein d'autres trous noirs qui sont en train de tourner les uns autour des autres. Et donc, ce qu'on espère, c'est à chaque fois récupérer les 20 dernières millisecondes ou les quelques.
Qu'est-ce qui, dans le signal qu'on détecte, est la signature de la masse de chacun de ces trous noirs ? C'est ça que je ne comprends pas.
C'est là où les efforts des théoriciens servent. Donc la rotation de deux étoiles l'une autour de l'autre, qui se rapprochent lentement l'une de l'autre, parce qu'elles émettent des ondes gravitationnelles, ça avait déjà été observé, et il y a même eu un prix Nobel en 1993, pour cela. Ce qui est neuf ici, c'est l'extrême fin du processus. Quand après des millions d'années, les deux objets, et là il se trouve que ce sont des trous noirs, se sont suffisamment proches pour qu'on puisse cueillir les dernières millisecondes. Mais pour ça, il faut que les théoriciens aient pu prédire avec une précision exquise le détail.
Le mot est exquis.
le détail du signal.
Non, ça veut dire que ce sont des simulations informatiques qui permettent.
Pas uniquement informatiques. Nous y reviendrons. Il y a tout un travail de théoriciens de différentes branches. Le détail du motif de ce signal dépend de si ce sont des trous noirs ou pas des trous noirs. Ça dépend des masses des deux objets. Ah oui. Ça dépend de leur rotation intrinsèque, ce qu'on appelle leur spin. Enfin, là, ça dépend essentiellement de ça. Et donc, le signal en fonction des masses est plus ou moins étalé, plus ou moins une forme légèrement différente. Et c'est en ajustant le signal observé à ces modèles théoriques, on peut déterminer les masses des deux objets et leur spin.
Parce que le signal, au moment où il tourne un autour de l'autre, le signal est trop faible pour pouvoir détecter, c'est seulement au moment où il fusionne qu'on peut voir quelque chose, c'est bien ça?
Oui, la dernière milliseconde.
Avant, ça existait déjà, mais on ne pouvait pas le voir.
Oui, c'était trop faible.
France Culture, Science Publique, Michel Alberganti.
100 ans après leur prédiction, qu'apporte la détection des ondes gravitationnelles? C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui avec Pierre Binet-Truy, responsable français de la mission LISA de recherche d'ondes gravitationnelles, Nathalie De Ruel, membre du laboratoire astrophysique et cosmologie de l'université Paris Diderot, et deux membres du club Sciences Publiques, Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum national d'histoire naturelle à l'AgroParisTech et à Sciences Po, et Jacques Trainer, physicien, ancien professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Oui, donc là, vous l'avez très bien expliqué, Nathalie Dorel, il y a cette espèce de conjonction à la fois de travaux théoriques qui permettent de savoir ce que, sur le plan théorique, deux trous noirs qui fusionnent donnent comme signal en matière d'ondes gravitationnelles, et la comparaison avec finalement le signal que l'on récupère, et c'est ce qui explique ce mystère extraordinaire qui est de dire, à partir d'un signal de 20 millisecondes, extrêmement petit, qu'il a été produit par deux trous noirs de telle taille qui sont situés à telle distance de la Terre.
Oui, ça, c'est pour les théoriciens, c'est...
C'est banal.
C'est une situation extraordinaire de voir la conjonction de 100 ans d'efforts théoriques et de tant d'années d'efforts technologiques. Et alors, dessiner sur le papier ce signal prédit, il a fallu les efforts combinés de beaucoup de théoriciens d'un peu partout dans le monde, depuis Einstein lui-même, je le disais tout à l'heure. Et il y a des parties qui sont analytiques, c'est-à-dire que l'on fait avec un papier, un crayon et des ordinateurs de taille très moyenne.
C'est des maths, quoi.
C'est la physique théorique, oui. Et il faut dire que l'école française s'est particulièrement illustrée dans ce domaine, l'école américaine aussi et l'école japonaise. Et l'école française, dont le chef de file est Thibaut Damour à l'Institut des hautes études scientifiques, et il y a aussi un groupe important à l'Institut d'astrophysique de Paris, sous la houlette de Luc Blanchet.
Et donc par modestie, Nathalie ne parle pas d'elle-même, mais elle a bien aussi contribué au domaine.
Dans un passé un peu lointain. Cet aspect analytique a demandé. La première étape avait été faite par Einstein en 18, une seconde par lui-même en 38, une étape dans les années 80. Il y a eu une autre étape dans les années 90, et là où je disais que si les détecteurs avaient fonctionné à ce moment-là, c'était pas encore suffisamment mûr pour détecter. Et les dernières étapes datent de l'année dernière, par des groupes différents.
Une extraordinaire conjonction, en fait.
D'un autre côté, il y a pour la fin du signal, c'est-à-dire quand les deux trous noirs, quand leurs horizons se sont touchés, comme le disait Pierre Binet-Truy un instant, et fusionnent, ça c'est le domaine de ce qu'on appelle la relativité numérique. Il faut résoudre ces équations terribles d'Einstein sur ordinateur. Et là, c'est surtout l'école américaine qui s'est distinguée depuis une dizaine d'années. Et il y a le domaine intermédiaire entre le début de la fusion que l'on peut calculer à la main, si je puis dire, la fin, la connaissance qui est du ressort de ces relativités numériques, et la période intermédiaire pour relier ces deux étapes. Et là, c'est l'école française de Thibaud d'Amour qui s'est vraiment illustrée pour arriver à faire la jonction entre les deux. Et c'est donc ces efforts combinés de tous les théoriciens qui a été merveilleusement détecté.
Pierre Binetry, l'avenir maintenant, c'est justement donc ce que vous aviez dit dès le début de l'émission, c'est la possibilité d'observer des choses auxquelles on ne pouvait pas accéder auparavant par manque de l'instrument nécessaire pour les observer. Qu'est-ce que on peut espérer apprendre? Qu'est-ce qu'on peut espérer découvrir? Est-ce qu'on a déjà des idées sur ce que les ondes gravitationnelles peuvent nous apprendre sur l'univers?
Alors déjà, on a une petite surprise avec cet événement-là, puisque ce sont deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires, et vous auriez interrogé presque tous les spécialistes jusqu'à il y a quelques mois, ils vous auraient dit que au-delà de 10 masses solaires, c'était pas la peine d'y compter. Alors c'est intéressant d'ailleurs c'est-à-dire que chaque trou noir individuel, les deux trous noirs qui tournent autour de l'autre, ont à peu près une 30 fois la masse du Soleil.
Et pourquoi est-ce que les physiciens y croyaient pas?
Il faut se rappeler que ces trous noirs sont les fins de vie d'étoiles et que ils pensaient que quand on regarde un petit peu les fins de vie des étoiles, au-delà que sur des trous noirs un petit peu moins massif. Alors, c'est pas non plus une...
Alors, c'est tout à fait vrai, mais il y a un physicien polonais dont le nom m'échappe à l'instant, qui avait revu un peu ces prédictions dont parle Pierre Binetry. Les prédictions des astrophysiciens étaient que ces binaires de trous noirs, vu ce que l'on sait sur l'évolution des étoiles, devraient être chacun d'une dizaine de masses solaires au maximum. Or, ils en ont 30. Mais ça avait été quand même prédit par un astrophysicien polonais, il y a 2-3 ans, en se disant, mais les choses changent quand on regarde la formation de ces trous noirs dans le passé. Parce que cette coalescence a eu lieu il y a 1,3 milliard d'années à peu près. Et il y a 1,3 milliard d'années, la composition de l'univers dans ces... je ne suis pas astrophysicienne, mais dans ces milieux-là, étaient légèrement différents. Les questions de métallicité différentes, je ne sais pas trop.
Donc il pouvait y avoir des trous noirs plus gros, peut-être.
Et donc il y avait une possibilité d'avoir des trous noirs plus gros. Mais c'était tout à fait récent, et Pierre Binetry a tout à fait raison de dire que, sauf les vrais spécialistes, les gens ne pensaient pas que ce serait possible.
Alors, juste pour signaler les différents phénomènes que l'on peut espérer détecter.
C'était pour justement montrer qu'il peut y avoir des surprises, mm-hmm. que justement, cet exemple-là nous montre que comme on remonte l'histoire de l'univers aussi, on va découvrir des choses sur l'évolution aussi de ces objets-là. Donc on compte beaucoup sur la fusion de trous noirs ou la fusion de deux étoiles à neutrons, qui sont aussi des objets très compacts, un petit peu moins compacts que les trous noirs. Pour les détecteurs au sol, on compte aussi sur les explosions de supernova. Donc, de nouveau, à chaque fois, il faut qu'il y ait de la masse qui bouge. Dans une explosion, elle bouge. Si l'explosion est asymétrique, eh bien, ça produit des ondes gravitationnelles. Sur le long terme, on espère aussi beaucoup, c'est la mission dont moi je m'occupe, de faire la même chose dans l'espace. Donc, la mission LISA, qui va regarder des événements beaucoup plus violents encore, qui correspondent à des trous noirs, cette fois-ci non plus stellaires, c'est-à-dire d'origine les étoiles, mais les trous noirs qui sont au centre des galaxies, qui eux ont quelques millions, quelques dizaines de millions, peut-être même quelques centaines de millions de fois la masse du Soleil. Donc on espère voir le même événement que celui dont on parlait, la fusion de trous noirs, mais alors cette fois-ci ce sont 10 millions de masses solaires qui se rentrent dedans et qui fusionnent.
Jacques Trainer d'abord.
Oui, deux remarques. La première, c'est que peut-être c'est le moment de dire que le terme de trou noir est particulièrement mal choisi, parce que c'est des objets de plusieurs millions de masses solaires. Appeler ça un trou, c'est un peu bizarre.
Non, c'est un trou hyper dans massif. L'espace-temps.
Non, c'est pas du tout un trou dans l'espace, c'est hyper massif. Donc le terme de trou est bizarre. On comprend bien d'où il vient, mais il est quand même bizarre. L'autre chose que je voulais signaler, c'est que j'ai vu la semaine dernière, et je dis ça pour les auditeurs, des trajectoires d'étoiles autour du centre de notre galaxie qui sont en libre accès.
et qui sont absolument extraordinaires. C'est des trajectoires keplériennes. En fait, on peut faire un petit exercice et puis calculer la masse du trou noir connaissant les équations de Newton avec ça. C'est extraordinaire. Alors, cette précision.
Ce petit montage est effectivement très important parce que pendant longtemps, moi, je me rappelle que quand on parlait des trous noirs, on mettait des guillemets et puis d'un seul coup, on a abandonné les guillemets. Je me suis posé la question que quand est-ce que ça s'est passé. Ça s'est passé au début des années 2000, disons franchement, parce que justement, on a identifié à partir du mouvement des étoiles autour de notre centre galactique, on s'est convaincu qu'il y a un trou noir de ce type-là, ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs, qui est exactement au centre de notre galaxie, et on a très vite, parce qu'on avait déjà fait un certain nombre d'observations, on s'est rendu compte que presque au centre de toutes les galaxies, eh bien, il y a des trous noirs de ce type-là. Mais ce qui nous a convaincus, c'est qu'il y en a un juste
chez nous,
à côté de chez nous.
Ouais. Pierre-Henri Gouillon.
J'avais deux petites questions. Première, pour qu'on puisse s'imaginer mieux les choses, c'est vrai que je pense que c'est difficile de donner la taille d'un trou noir, étant donné ce que c'est, mais il y a l'horizon. C'est quelle taille un horizon de trous noirs de ce genre-là?
Les trous noirs dont on parle là, c'est de l'ordre de la centaine à 200 kilomètres. Et donc, par rapport à ce qu'on disait, voilà. Si vous regardez la distance entre les deux trous noirs, on est, ce qui est complètement difficile à imaginer, ils sont à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre.
Il y a 30 fois la masse du Soleil de chaque côté.
Voilà, à quelques centaines de kilomètres, c'est à ce moment-là qu'on les récupère, en fait.
Donc on imagine les doses d'énergie monstrueuses qui doivent se prendre.
Et pour rajouter encore au côté étonnant, la vitesse à ce moment-là, on peut calculer... genre de vitesse approximative est très proche, est à peu près varie dans ces 20 millisecondes entre un tiers de la vitesse de la lumière et la moitié de la vitesse de la lumière. Donc ça tourne à une vitesse faramineuse.
D'accord. Et donc ça envoie une énergie folle dans l'espace. Et c'était la deuxième question que je voulais vous poser, c'est que donc la déformation de l'espace-temps, ça prend de l'énergie, ça en consomme, ça en fabrique. Et celle qui a été mesurée, elle sur la Terre,
on estime...
Nathalie Dorwell.
La notion d'énergie en relativité est assez subtile. Bon, on connaissait les masses.
C'est tout ce qu'on en connaît. Hein. On connaît rien d'autre que égal mc2 on n'est pas physicien.
Alors. Oui, E égal mc2 quand il n'y a pas de gravitation. les deux trous noirs, on a pu mesurer leur masse avant qu'ils ne fusionnent. C'est de l'ordre de 30 masses solaires. On a pu mesurer aussi la masse du trou noir final.
Après, et c'est là qu'on a trouvé la différence.
Qui n'est pas la somme des deux masses, il y a une différence de l'ordre de 3-5 masses solaires. Donc ça veut dire que c'est 3 fois la masse du Soleil, il y a 5 fois, qui a disparu en pure onde gravitationnelle. Donc ça, c'est assez extraordinaire.
On parle d'une énergie 50 fois supérieure à toute l'énergie produite par les étoiles. Je n'ai pas trop compris le sens de cette analogie.
En fait, on ne parle pas d'énergie.
Je ne sais pas justement s'il faut parler d'énergie.
Il faut parler de puissance. C'est-à-dire la puissance, c'est l'énergie par unité de temps. Mmh. Et donc, cette énergie de 3 masses solaires a été relâchée en 20 millisecondes. Et donc, la puissance, c'est-à-dire l'énergie par unité de temps, est supérieure à la puissance développée par toutes les étoiles de tout l'univers.
Dans le même temps, d'accord.
Et
sur la Terre, ça a un effet en termes énergétiques, le fait de ces changements de taille là.
Je ne pense pas que ça soit une énergie nouvelle, mais on peut vérifier.
Non, parce que l'interaction est très faible. Par exemple, je supposais que vous ayez eu, dans les parages là, près de ces deux trous noirs qui étaient en train de fusionner, une petite étoile qui regardait ce qui se passait dans les voisinages. Donc, parce que nous sommes très très loin, nous sommes à 1,3 milliards d'années-lumière
en distance. Oui, en distance.
Mais on peut imaginer qu'un objet ait pu être dans les parages. Donc la question que je me posais, c'était de me dire, mais qu'est-ce qui a pu arriver à cette étoile-là, tout près, dans cette espèce de tsunami de l'espace? Eh bien, en fait, pas grand-chose.
C'est-à-dire, elle n'a pas été détruite, elle n'a pas été aspirée, elle n'a pas été refoulée.
Il est vrai qu'il est question d'un flash qui aurait été observé par un détecteur américain de lumière dans ces zones-là. Mais pour l'instant, c'est complètement hypothétique et pas vérifié.
Donc, Jacques Reiner.
Oui, j'ai une question sur la façon de concilier deux images. D'une part les ondes gravitationnelles et d'autre part les gravitons. C'est-à-dire comment on passe de l'un à l'autre. Pour les ondes électromagnétiques, les processus de création et d'absorption sont de type corpusculaire. Mais ensuite, la propagation est régie par une équation d'onde, etc. Est-ce qu'il y a le même genre de processus dans le cas des ondes gravitationnelles et comment on résout les deux images? Comment on concilie les deux images?
C'est la mécanique ondulatoire. Alors, gravitationnelle.
D'abord, on ne sait pas si la gravité est décrite par une théorie quantique. Donc, le graviton serait l'équivalent du photon pour les ondes gravitationnelles. Oui. Ensuite, c'est beaucoup...
Ça, c'est pas assuré, ça.
Non, ça, il faudra attendre d'avoir la théorie quantique de la gravité pour vérifier.
Donc la fameuse unification.
La fameuse unification. Alors je ouvre une parenthèse sur cette unification. Moi, je pense que si on commence à étudier très précisément ce qui se passe près de l'horizon des trous noirs, il y a des chances de voir des phénomènes quantiques. Il y a beaucoup de discussions en ce moment parmi les théoriciens sur effectivement la nature de l'horizon autour des trous noirs, ce qui est possible ou pas du point de vue de la mécanique quantique. Donc je crois que maintenant on va pouvoir observer très près de l'horizon des trous noirs. On a presque commencé à le faire là. Et donc, je pense que ça va être une étape extrêmement importante pour cette unification. Mais indépendamment de ceci, imaginons qu'il y a effectivement une théorie quantique un jour. C'est une question, c'est un petit peu comme avec la lumière, c'est ce qu'on appelle une question de longueur d'onde, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il y a des... donc, le phénomène est un phénomène périodique, une onde périodique. Là, pour tous les phénomènes dont on parle, on va dire que la longueur d'onde est telle, elle est extrêmement grande, et donc il n'y a pas vraiment des effets quantiques associés. On peut considérer ça comme une pure onde.
Ça se déplace à la vitesse de la lumière.
Alors ça se déplace a priori à la vitesse de la lumière, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier.
L'observation du mois de septembre, là, étant donné qu'elle est en plein accord avec les prédictions théoriques qui sont déduites de la relativité générale, pure et simple, celle d'Einstein, sans modification. Et c'est une preuve supplémentaire que les ondes gravitationnelles vont à la vitesse de la lumière.
Et la longueur d'onde, elle est de combien alors, quand même, en gros?
Pierre Bidétruy, c'est la dernière.
C'est 100 km.
Il doit
c'est
être 100 très
km.
Parce que
les longueurs d'onde sont à peu près de l'ordre de la taille des objets. Ouais. Donc voilà.
D'accord.
Bon, ben voilà, sur cette précision, le débat du Club de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Pierre Vinetruy, Nathalie Deruel, Pierre-Henri Gouillon et Jacques Trainer d'y avoir participé. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez évidemment vous référer à l'ouvrage de Pierre Vinetruy, paru chez Dunod en 2015, à la poursuite des ondes gravitationnelles. Sur le site de l'émission, vous pouvez visionner une vidéo qui rassemble les images réalisées à l'occasion de la découverte de ces ondes par le LIGO, ainsi que des liens internet. Et sur notre site, réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an. Et vous pouvez toujours nous adresser vos commentaires en bas de la page de l'émission. La semaine prochaine, vendredi 4 mars, nous passerons de l'infiniment grand à l'infiniment petit puisque nous nous intéresserons à l'ordinateur quantique. Dans le cadre de notre émission mensuelle réalisée en partenariat avec Science et Vie, nous ferons le point sur les promesses de cette révolution annoncée de l'informatique, révolution dont le réalisme fait encore débat. Nous tenterons d'y voir plus clair avec nos invités, parmi lesquels Philippe Granger et Daniel Estève, Science Publique, Dany Journaud, Édouard Rubinstein, Marie Dalquier, Michel Albergenti.